chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise.
Journaliste et écrivain avec plus de 50 ans de trajectoire, Carlo Gavetta a dirigé entre autres l'Hebdo El Periodista, au retour à la démocratie en Argentine dans les années 80, et de 1999 à 2011, Le Monde Diplomatique, édition Cône Sud. En France, il a travaillé à l'agence France Presse et a été éditorialiste du journal El País de Madrid en Espagne. Bonjour Carlo, bienvenue et merci de répondre à cet appel de RAE, l'Argentine vers le monde.
Bonjour Eric.
Comment ça va?
Ça va, c'est un honneur d'être appelé par Radio France Internationale, par Radio Nationale, dans ces émissions en français.
C'est vous qui avez proposé, enfin je vous ai consulté, cette version de Yves Montand des Canuts, un chant combatif, vieux de presque 200 ans, si ma mémoire n'est pas mauvaise, qui a même été repris d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon lors des présidentielles l'année dernière, non? Et pourquoi les Canuts?
Et oui, justement, parce que on n'oublie pas les rêves, tu vois, on ne les oublie jamais, les rêves.
C'est bien. Parlons un peu de la politique étrangère de l'Argentine et surtout de Mauricio Macri, il y a près plus de 2 ans de gouvernement. Qu'en est-il de ce fameux retour au monde de l'Argentine et comment voit-on l'Argentine depuis la France et autres pays développés?
À mon avis, l'Argentine est toujours dans un cercle vicieux qui consiste à passer d'un gouvernement populiste à un gouvernement libéral. Les populistes, on sait bien qu'ici en Argentine et un peu partout dans le monde, ils finissent toujours par avoir des problèmes économiques graves, des problèmes de corruption, des problèmes de clientélisme, tel qu'on l'appelle ici en Argentine. Et d'autre part, les gouvernements libéraux mènent la politique libérale de toujours, c'est-à-dire l'endettement, la baisse d'impôts pour les grandes entreprises, etc. Et on ne sort pas de ce cercle vicieux. Actuellement, le gouvernement Macri, c'est un gouvernement libéral typique. Et il y a quelques différences cette fois-ci dans ce sens que le gouvernement est obligé à maintenir quelques avantages pour les plus défavorisés qui ont été établis par le gouvernement péroniste antérieur, le populisme antérieur. Et on ne sait pas toujours très bien ce qui va se passer parce que d'autre part, la politique libérale du gouvernement Macri consiste à réduire le déficit fiscal, ce qui est bien parce qu'il était énorme,
oui,
à s'endetter, ce qui est nécessaire parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Mais on sait très bien que les politiques libérales sont en train d'échouer un peu partout dans le monde. De même que les politiques en Europe, par exemple, voire aux États-Unis, les politiques des conservateurs. Donc, on sait bien ce qui va se passer parce que tout le monde aujourd'hui est en pleine crise. Il y a des pays qui marchent un peu mieux, d'autres mal, mais dans l'ensemble, le bilan est plutôt négatif. Donc pour des pays comme l'Argentine, qui ont des problèmes structurels graves, des problèmes institutionnels graves, parce qu'ici, et la justice, et les syndicats, et la politique, et les organismes de sécurité, ils sont tous envahis par une corruption assez importante. Donc, le gouvernement essaye de donner l'impression d'essayer de mettre fin à tout cela. Mais d'une part, il faut comprendre que c'est difficile. D'autre part, la méthode libérale n'est plus la plus convenable pour ce genre de propos. Donc, franchement, je suis dans l'attente de voir ce qui se passe. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt pessimiste.
Oui, oui.
il faut un dialogue différent, un vrai dialogue. L'Argentine ne dialogue pas. Et si l'on est populiste, tout ce qu'ont fait les populistes de mauvais, ça n'existe pas. De l'autre côté, tu parles au même. Donc, jusqu'à ce que et la société et la dirigeance politique argentine dans son ensemble ne commencent à dialoguer, à accepter la gravité des problèmes, à les résoudre ensemble, je crois qu'on ne va pas s'en sortir.
Aïe, aïe, aïe. Et parlons dialogue, mais au niveau international. Récemment, il y a eu une réunion à Paris, une rencontre entre Macri et Macron. Macri avait l'air surtout inquiet par le retard des relations et des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Mercosur. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, écoute, le problème aujourd'hui, là, on parle de l'économie et des problèmes mondiaux. Aujourd'hui, tout le monde essaie de vendre ce que les autres, en général, ont en abondance. C'est-à-dire,
oui.
L'offre excède largement la demande. L'emploi devient de plus en plus rare, difficile. Ceux qui restent salariés vont ces salaires diminuer. Donc, les nouvelles technologies font que la production augmente en quantité et en rapidité de production, tandis que les salaires baissent, et non seulement dans la classe ouvrière, mais aussi dans la classe moyenne, le secteur professionnel, la disparition du petit et moyen commerce, par exemple.
Oui.
Et tout cela fait que, sur le marché, l'offre excède largement la demande. Ça, c'est le problème mondial, jusqu'à ce que il y a une réunion des pays, tout au moins les plus importants, qui se mettent d'accord pour faire accroître la demande de façon non artificielle.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, toutes les crises financières ont été provoquées par le fait qu'on essayait d'augmenter la demande moyennant des crédits bon marché, etc., etc. Par exemple, au niveau de la construction, on vend des maisons, on vend des appartements, en octroyant des crédits bon marché à long terme à beaucoup de gens. Bon, cela, au départ, ça fait augmenter la productivité, secteur construction. Mais par la suite, il faut payer les crédits.
Oui.
Les gens perdent leur emploi ou bien vont leur salaire diminuer, ils ne peuvent pas payer les crédits, donc il y a une bulle financière et une crise. Tout cela a commencé autour des années 70 dans les pays périphériques, la Thaïlande, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, justement en 2001, des crises gravissimes. Mais depuis 2008, le problème s'est installé au cœur du système, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis.
D'accord.
Aujourd'hui même, il y a pas plus que deux semaines, on a vu la bourse à Wall Street en Europe chuter, les taux d'intérêt augmenter, se dire que la dette extérieure des pays les plus pauvres ne va pas être payé, tout au moins payé en termes, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Tant que tout cela ne change structurellement, je ne vois pas une issue.
Vous avez nommé les États-Unis, on ne peut pas parler de politique internationale sans faire référence à Donald Trump, non, et son influence sur l'Amérique latine. Très brièvement, quelle emprise a-t-il, lui, depuis son ascension sur l'Amérique latine?
Mais voilà, Donald Trump, c'est l'exemple. Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années, à partir du moment où la crise en 2008 s'est installée au cœur du système, aux États-Unis et en Europe? On a vu la montée de l'extrême droite en France, en Allemagne. L'extrême droite nazie allemande vient d'entrer au Parlement. Et aujourd'hui, j'ai lu dans le journal El País un papier selon lequel l'extrême droite allemande avantage déjà la social-démocratie allemande. Tu vois, dans les enquêtes, l'extrême droite dévance déjà la social-démocratie allemande. Lors des dernières élections européennes au Parlement, il y a 3 ans, l'extrême droite a vaincu dans 3 pays. Grande-Bretagne, la France et Danemark.
Oui.
C'est intéressant, ça. L'extrême droite a sorti la première lors de ces élections européennes pour le Parlement européen, il y a 3 ans.
Oui.
Alors, le phénomène se répète un peu partout. Et pour revenir aux États-Unis, on n'aurait pu jamais imaginer un président tel que Trump dans la plus grande démocratie au monde. Mais aujourd'hui, il est là, un monsieur qui est misogyne, raciste et milliardaire, est vraisemblablement corrompu parce qu'il y a pas mal d'enquêtes qui se mènent autour de lui ou par rapport à lui. Donc, on voit une situation vraiment compliquée, dangereuse, parce que le danger d'un conflit international grave progresse. On voit le cocorico entre les États-Unis et la Corée du Nord, et la Russie, la Chine. Aujourd'hui, un conflit mondial, ce serait un conflit nucléaire et vraisemblablement biologique. Il y a déjà des armes biologiques, et pas seulement au pouvoir des grandes démocraties, la Corée du Nord, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan ont l'arme nucléaire. Donc, le monde est en danger. Il faut tenir compte de ça.
Très clair et un peu inquiétant, mais bon, on s'y attend. On s'y attend un peu. Nous sommes en train de parler avec Carlo Gaveta, journaliste et écrivain. En quelques mots, quels sont vos projets, votre actualité? Qu'êtes-vous en train de faire, en train d'écrire certainement?
Pardon, j'ai pas bien entendu parce que la communication était un peu...
Non, je vous posais la question sur vos projets actuels. Vous êtes en train d'écrire.
Mes projets personnels?
Oui.
Je viens de finir un bouquin sur les années 70 en Argentine, que j'espère que fait en collaboration, ça c'est rare, c'est bizarre, et fait en collaboration avec un militaire argentin qui s'est battu contre la guérilla où je militais à l'époque, il y a 40 ans, l'armée révolutionnaire du peuple. Lui, lors d'un combat contre nous, ayant 24 ans, il a été blessé, et depuis lors, il est en chaise roulante. Il est resté paralysé, quoi. Il n'a plus de jambes. Et entre-temps, il s'est diplômé en sciences politiques, il est professeur à l'Université catholique argentine, et il y a 3 ans, il a fait un doctorat en sciences politiques dont le sujet était nous, l'armée révolutionnaire du peuple.
D'accord.
Et c'est là que je l'ai connu. C'est un monsieur qui est contre, qui se prononce contre, qui critique très clairement les méthodes qui ont été pratiquées par la dictature militaire, les disparitions, la torture, etc., etc. Il reste toujours un monsieur nationaliste de droite. Il revendique ses idées, ce dont il a le droit, bien entendu, mais il critique la méthode. Donc, on a fait un bouquin ensemble. Il s'agit d'une chronologie dont le point de départ, ce sont les années 60, le coup d'État du général Onganía. Nous avions à l'époque tous les deux 24-25 ans. Et chacun de nous, on raconte comment a vécu ce temps-là et qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui là-dessus.
D'accord.
Donc l'idée, c'est de contribuer justement à ce qui est un débat clair où chacun assume ses responsabilités, de façon à laisser cette période en arrière en tant qu'expérience à ne plus jamais répéter. Ça, c'est l'idée. Et on espère contribuer.
Bon, mais il va falloir le lire, vraiment. Très, très intéressant comme sujet. Camo Gavita, pour nous quitter, excusez-moi, vous nous avez proposé un nouveau Yves Montand avec un autre classique, avec Le Temps des Cerises, qui nous renvoie aussi au passé en France, au temps de la Commune de Paris et de 1871.
Vas-y, j'adore ça.
Bon, merci beaucoup, Carlos, et à très bientôt.
À bientôt, Eric. Merci à toi.
Au revoir.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour.